Le MEDEF, vous l'avez vu, organise un énorme meeting pour lutter contre certaines théories dangereuses, je cite, pour les entreprises, et notamment contre l'attaque Zuckman sur les hauts patrimoines. On a désormais une date fixée aujourd'hui par le MEDEF, ce sera le 13 octobre prochain. Est-ce que vous irez ?
Moi, je ne suis pas patron, moi. Je suis.
Mais en tant qu'ancien patron, parce que vous soutenez la cause.
Non, je n'irai pas. Si j'étais invité, je verrai. Je n'irai pas. Mais je trouve tout à fait normal que, à la veille d'un budget, chacun montre ses muscles. Les syndicats le font. J'ai compris qu'ils avaient annoncé deux journées d'action. Le patronat le fait.
Le 2 octobre prochain.
Le patronat le fait. On ne connaît pas le budget, mais
on connaît les pistes.
On indique tout de suite ce que l'on ne souhaite pas.
Ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu les patrons aussi remonter, non ?
Je pense que le débat sur la fameuse taxe Zuckman a durci les relations, effectivement. Et je pense que c'était un débat pas très utile, parce que, en deux mots, il va falloir que tout le monde fasse des efforts. Et on sait qu'une baisse des dépenses publiques pèse plus sur les classes moyennes et populaires que sur les personnes aisées ou riches. Et donc, il apparaît normal à une partie de l'opinion publique qu'il y ait une pression fiscale qui s'exerce au titre de la solidarité sur les plus aisés et les plus riches. Je distingue bien aisés et riches. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... J'ajoute les deux.
Mais
alors, est-ce que c'est la taxe Zuckman qu'il faut ? Personnellement, je pense que non. Parce que je pense que cette taxe est une fausse bonne solution. Alors, elle plaît à beaucoup de monde, parce que ça touche 1600 personnes ou 1700, donc ça ne nous concerne pas. Ça rapporte 20 milliards.
1800, plus précisément.
1800, excusez-moi. Excusez-moi, Jamil.
Ah non, mais. J'aurais des sauvés. Rien de grave, hein, mais je précisais les choses.
Bon. Et, ça rapporte de l'argent.
20 milliards.
Ils estiment entre 15 et 20 milliards d'euros.
Le rendement, on ne sait pas du tout combien ça rapporte. Mais enfin, le chiffre de 20 milliards circule. Et puis en plus, on taxe des gens qui font pas pitié. Donc tout ça présente beaucoup d'avantages. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne solution, parce que c'est une taxe qui, d'abord, est très difficile à mettre en œuvre, parce que le Conseil constitutionnel est parfaitement clair. Il faut pas que ça soit confiscatoire, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça dépasse 60% du revenu des personnes. Or, dans un certain nombre de cas, on l'a bien vu, Mistral et autres, les actionnaires dans des entreprises qui ne dégagent pas de bénéfices vont se trouver dans cette situation. Donc il va falloir les exclure. Mais comment, sur quels critères, comment on va faire pour les exclure ? Ça va être extrêmement compliqué.
Donc si je vous suis...
Et alors j'ajoute un deuxième point, parce que c'est important. Je trouve que c'était très commode. On trouvait 20 milliards par miracle. Et ça permettait aux autres, j'allais dire à nous tous, de ne pas faire d'efforts. Or, je pense que l'effort, ici, doit être pour tout le monde, à l'exception des plus fragiles. J'ajoute, à l'exception des plus fragiles. Mais il doit être pour tout le monde. Et donc, je pense que les personnes aisées et riches, et je dis aisées et riches parce que ça doit être plus large. Moi, je n'aime pas une mesure qui cible 1800 personnes et les désigne du doigt, un peu les stigmatise. Donc, je pense que c'est de la solidarité. C'est pas, on n'est pas en train de stigmatiser des mauvais contribuables. Il y a de la solidarité qui doit s'exprimer. Mais il faudra trouver des mesures qui soient plus générales. Moi, j'ai été intéressé ce matin dans un journal économique du matin par ce qu'a proposé Marc Fesneau du Modem. Il a donné des pistes. Eh bien, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes.
Alors, lesquelles? Quelle est la piste proposée donc par Marc Fesneau qui vous semble pertinente?
Fesneau a proposé par exemple d'augmenter la flat tax. Il a proposé
une hausse de la flat tax sur les revenus du capital. C'est l'une des pistes visiblement sur la table à l'heure qu'il est.
Il a proposé de rétablir une sorte d'ISF qui sortirait l'outil de travail. Ah oui, il a proposé de.
Alors attendez. Alors arrêtons-nous là-dessus. Effectivement, et c'est un petit peu ce dont tout le monde parle. Ça fait la une de tous les journaux demain.
Je veux dire très franchement que ce n'est pas une voie que je privilégierais, celle-là.
Celle-là. Alors. Cette
En plus, je suis pas fiscaliste. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut.
Oui, mais l'avis d'un ex grand patron est particulièrement intéressant en ces temps. C'est vrai que.
Il faut pas toucher aux entreprises. Franchement.
C'est ça la ligne rouge.
Il ne faut pas toucher aux entreprises pour une raison très simple. Moi, je suis pour la politique de l'offre. Et je crois même avoir été un peu à l'origine de cette politique de l'offre.
Oui.
Lorsque j'ai fait mon rapport en 2012, vous n'étiez pas né. Mais
moi, j'étais né.
vous, Jean-Marc. Et cette politique de l'offre, d'ailleurs, qui a coûté très cher à François Hollande, parce que c'est ça qui a généré les frondeurs. Cette politique de l'offre, elle donne des résultats encourageants, il ne faut pas l'arrêter. Résultats encourageants, il y a eu 2 millions de créations d'emplois. Alors, c'est peut-être pas la politique de l'offre qui l'a fait, mais il y a eu 2 millions de créations d'emplois. On a arrêté de perdre de l'emploi dans l'industrie.
Alors, arrêtons-nous sur cette proposition-là. Visiblement, parmi les pistes étudiées...
Vous voulez parler fiscalité.
Bah oui, parce que c'est le sujet qui intéresse un peu tout le monde en ce moment. Parmi les pistes, il y a cette contribution sur le patrimoine non professionnel. Et les experts autour de la table, Jean-Marc Sylvestre, vous allez nous le confirmer, nous disent que c'est une sorte d'ISF, de retour de l'ISF. C'est le principe même de l'ISF.
Marc Fesneau le dit très franchement. Mais est-ce que c'est vraiment très différent de l'IFI?
Le l'IFIM actuel.
L'IFI, l'impôt sur la fortune. Attendez, parce que c'est compliqué pour les gens qui nous regardent. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, mise en place par Emmanuel Macron.
Écoutez, ça permettrait de mettre dedans l'assurance vie, par exemple, en plus. Les livrets de caisse d'épargne pour ceux qui en ont, etc. Ça permettrait d'élargir l'IFI actuel.
L'assurance vie.
Pardon ?
Vous voyez imposer l'assurance vie aujourd'hui ? Ça va être attelé.
Je vous rappelle que ça se faisait du temps de l'ISF. Hein. Je ne suis pas très partisan de cette disposition. Je suis plus intéressé, par exemple, par le fait d'augmenter l'impôt sur les sociétés des bénéfices distribués. Pas des bénéfices non distribués.
Mais vous dites quand même, pardonnez-moi, parce que j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Encore une fois, ça fait la une de tous les journaux. On a regardé demain, donc il faut bien expliquer en quoi ça consiste. C'est taxer les hauts patrimoines sans toucher donc à l'outil de travail. Et en ça, vous nous dites... pas la meilleure des solutions, mais on peut l'accepter.
Personnellement, c'est pas une solution que je privilégiais. Je ne sais pas combien elle rapporte. Parce que tout ça, il faut savoir combien ça rapporte. Moi, je ne suis pas la direction du budget ou la direction des finances publiques. Je ne suis pas capable de vous dire combien ça rapporte.
Alors, ça dégagerait visiblement entre 2 et 3 milliards d'euros par an.
L'ISF rapportait très peu. Il rapportait 3-4 milliards. Et il a d'ailleurs coûté beaucoup plus cher qu'il n'a rapporté.
Oui, je vois quel calcul vous faites allusion, Jean-Marc, Sylvestre. Mais je n'ai pas été complètement convaincu par ce calcul. L'ISF est un impôt qui a eu son temps et je ne propose pas qu'on fasse revivre les vieux
systèmes.
Ceci étant dit... je n'ai pas d'obstacle de principe. J'ai un obstacle de principe dès lors qu'on touche aux entreprises. Parce que je sais qu'on ne peut pas continuer à baisser les impôts des entreprises, ce qu'il faudrait faire pour les impôts de production. Mais on ne peut pas le proposer actuellement. C'est évident que ça ne serait pas accepté. Mais il faudra y penser un autre jour. Mais je pense que les entreprises ont des charges qui sont plus fortes en France qu'ailleurs. Nettes des aides, je suis clair. Net des aides. C'est-à-dire que si vous prenez l'ensemble des prélèvements sur les entreprises et que vous déduisez les aides qu'elles reçoivent, donc c'est-à-dire les prélèvements nets, nous sommes à 10% du PIB, alors que les Allemands sont à 8% du PIB. Alors vous dites 2%, c'est rien, c'est 50 milliards.
On est déjà trop taxé, c'est ce que vous dites, parce que les oppositions soulignent les aides aux entreprises qui s'élèvent à environ 200 milliards par an.
Les calculs sont extrêmement variés. Le France Stratégie a fait 4 scénarios, il y en a un à 139 et un à 220. Donc vous voyez, il y a de la marge, ça dépend ce qu'on mettait dedans. Quand vous êtes à 215, vous avez dedans, par exemple... la compensation apportée par l'État à la SNCF pour son système de retraite. Parce que comme le système de retraite de la SNCF est plus favorable que le système de droit commun, l'État compense la différence. Est-ce que c'est une aide aux entreprises? Ça se discute.
Mais
il faut savoir ce qu'il y a.
Vous dites qu'il y a un mauvais procès qui est fait sur les aides, puisque là on voit bien que
Je ne dis pas qu'il n'y ait pas un procès. J'ai été interrogé.
Vous avez été auditionné
par cette commission. Je pense qu'il faut. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on regarde les aides et celles qui sont efficaces, celles qui ne sont pas efficaces, et ce qu'on supprime celles qui sont inefficaces.
Il y a un peu de ménage à faire, sans doute.
Il y a certainement du ménage à faire. Il y a, sur les conditions, la conditionnalité des aides, il faut que cette conditionnalité soit claire, directement liée à l'objet des aides, et qu'on puisse le vérifier. Et il n'y a peut-être pas assez de contrôle. Mais dire les entreprises françaises se gobergent d'aides... Oui.
C'est de l'argument politique.
Ça, je pense que c'est un argument qui ne tient
pas. Vous avez l'impression quand même que les Français n'aiment pas les patrons, n'aiment pas les entreprises?
Non. Bien, je pense qu'il faudrait que les Français comprennent que une partie de leur avenir est due, est liée à celui de ces entrepreneurs. Les entrepreneurs en France doivent être considérés comme des gens qui servent le pays. Et je suis, tout à fait du côté de ceux qui essayent de produire.
Et les entrepreneurs qui ont réussi, mais aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, ceux qui ne se sont pas encore lancés. Parce qu'avec les taxes Zuckmann, oui. Vous allez comprendre qu'un entrepreneur qui décide de lancer sa boîte en France, on lui dit en gros, si ta boîte réussit et qu'elle est valorisée à plusieurs milliards, tu vas payer très cher. Donc tu as intérêt à ne pas créer ta boîte en France.
Oui, mais on serait, si on faisait la taxe Zuckmann, on serait obligé d'exclure ces gens-là, parce que ça serait confiscatoire. Et le Conseil constitutionnel serait... Ce qui fait que d'ailleurs, ça serait extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Mais moi, je pense que la France a besoin d'entrepreneurs, il a besoin d'entreprises dynamiques. Nous étions, Jean-Marc Silvestre et moi-même, devant la semaine dernière, ou il y a 15 jours, dans une réunion d'entrepreneurs, de PME. Mais ce sont ces gens-là qui font avancer les choses. Leurs salariés aussi. Leurs sorts sont liés. Donc, que les Français doivent comprendre que les entrepreneurs sont des personnes qui méritent le respect et le soutien.
Et pour l'instant, c'est pas le cas.
Quand on fait des sondages, on s'aperçoit que les chefs d'entreprise bénéficient quand même d'une certaine cote. Si je les compare aux politiques, et excusez-moi, aux journalistes.
Vous avez raison, on n'est pas très populaire.
De toute façon, les politiques, les journalistes sont toujours les derniers, ça c'est pas un problème.
Mais ce qui est plus préoccupant,
vous qui avez quand même occupé des fonctions d'entrepreneur, enfin de grand patron, c'est quand même, ces dernières années, il y a incontestablement une dégradation. Enfin,
écoutez, dans les sondages, les sondages montrent que les Français font confiance d'abord aux pompiers, aux maires et les chefs d'entreprise.
Ils aiment bien leur boîte en général.
Les chefs d'entreprise sont assez proches de cela. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu...
Mais est-ce que les organisations patronales, c'est un petit peu différent, est-ce que dans le conclave, vous savez, négociation sociale qu'il y a eu avant l'été...
Dont j'ai beaucoup regretté l'échec.
Alors voilà, justement, est-ce que là, il n'y a pas eu un peu de rigidité de la part du patronat qui n'a pas voulu, dans la dernière ligne droite, un peu céder sur quelques aspects de la réforme des retraites et pas le cœur, et qui peut-être va coûter très cher trois mois plus tard.
Je partage votre avis, nous avons raté une occasion de traiter le problème des retraites dans ce pays, qui est quand même un problème qui va nous empoisonner l'existence et qui va être au cœur de la prochaine campagne présidentielle. C'est-à-dire que pendant un an et demi, nous allons en entendre parler. Donc, on avait une occasion, avec le premier syndicat français, plus la CFTC, d'avancer sur ce sujet. J'ai beaucoup regretté que ça ne conclue pas.
Président.
Je n'ai pas participé aux négociations dans le détail, donc je ne veux pas imputer l'échec à tel ou tel, mais je pense que ça méritait qu'on fasse des efforts.
Mais Monsieur le Président, il y a eu une grande négociation, il y a quelques années, à laquelle vous avez participé, parce que dans votre longue carrière d'industriel, vous avez été président de Peugeot.
Oui.
À un moment où on était en train de décider pour l'industrie automobile le passage à l'électrique.
Oui.
Exact. Vous étiez là.
Oui, j'étais là.
Comment se fait-il que nous soyons arrivés à ce fiasco d'aujourd'hui
écoutez,
à Poissy, dans une usine que vous avez dû inaugurer, avec 2000 ou 3000 chômage partiel. Et c'est pas fini.
Environ 2000.
Cette affaire a été traitée de manière inacceptable. Les chefs d'entreprise de l'industrie automobile n'ont pas été consultés.
Vous avez été consulté?
Non, on n'a pas été consulté. On a été consulté après, pas avant. Il y a eu un débat entre le Conseil et le Parlement européen. Le Conseil proposait 2040 pour passer à tout électrique. Le Parlement était sur 2030. Donc on a transigé, on a fait au milieu, en orbite. Aucune étude d'impact. Personne n'a mesuré les conséquences d'une telle décision qui ouvrait un boulevard aux Chinois qui ont 10 ans d'avance sur la voiture électrique. Et maintenant,
perdu. Le marché est perdu pour nous.
Le marché n'est pas perdu. Rien n'est jamais perdu, pourvu qu'on se batte. Mais il va falloir se battre. Il va falloir se battre. Et un moyen de se battre, c'est de voir comment on travaille avec les Chinois. Et moi, je soutiens ce qu'avait fait Carlos Tavares à l'usine de Saragosse. Il s'est associé avec CATL, le premier fabricant mondial de batteries, pour faire une usine 50-50.
Pour en revenir, on a beaucoup de questions de téléspectateurs. On a une question de Sophie. On est pris pour des vaches à lait. On paye nos impôts, on paye nos cotisations. Mais quand j'ai besoin d'un médecin, je n'ai pas de rendez-vous avant 3 mois. Est-ce que l'argent public est bien utilisé? Ce sentiment-là, c'est un sentiment qu'on entend beaucoup, Bruno Jeudy, peut-être, dans ce climat actuel.
Oui, parce que d'abord, il y a eu des rapports qu'ont montré justement l'accumulation d'organismes parapublics, d'agences. Donc, il y a des chiffres qui sont assez vertigineux, mettant tout au même plan, parce qu'il y a des agences qui sont sans doute toutes petites, puis d'autres qui sont très importantes, certaines qui servent à rien, d'autres qui servent beaucoup. Après, il y a eu aussi des rapports qui pointent le gaspillage d'argent public dans certaines grandes organisations publiques. Ça aussi, tout ça contribue à faire monter le sujet autour du gaspillage, qui est évidemment exploité, parfois à raison, parfois de manière excessive, par certains partis politiques. Et du coup, chez les Français, l'idée s'installe que l'argent est mal dépensé. Il faut reconnaître que il y a quand même une grande partie de notre richesse qui est dépensée dans l'argent qui est dans la sphère publique bien de manière bien plus importante que chez certains de nos voisins. Sur l'hôpital par exemple, c'est criant.
Sécurité la suradministration sociale, c'est la moitié des dépenses.
La suradministration du système milliards. Hospitalier français est quand même les chiffres le montrent. Alors après, moi je suis pas un spécialiste dans quel la part de gaspillage là-dedans, mais
il y a un sentiment de gaspillage et d'injustice, on y revient. Regardez ce que dit Henri. Depuis 2017, j'ai surtout vu des cadeaux aux grandes entreprises et aux plus riches au nom du fameux ruissellement. Mais moi, dans mon quotidien, je n'ai rien vu ruisseler du tout. Ne s'est-on pas trompé de politique fiscale? Et j'aimerais qu'on écoute François Ruffin, le député François Ruffin de la Somme, sur BFM TV ce matin, qui va un petit peu dans ce sens aussi. On écoute.
On vit dans un pays où les milliardaires payent 2 fois moins d'impôts en proportion que leurs secrétaires et que les infirmières. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, il s'agit là de relever l'imposition des plus grandes fortunes de notre pays, dont le patrimoine a été multiplié par 14 en 30 ans. Vous savez, en une année de crise Covid, les 500 fortunes de notre pays ont vu leur fortune quasiment doubler. Plus 236 milliards d'euros.
Pour les gens qui nous écoutent, Jean-Marc Sylvestre, notre spécialiste économie sur ce plateau, on a besoin de vous. Est-ce que réellement les riches paient moins d'impôts que leur secrétaire,
en pourcentage, oui, ça doit. C'est exact. Mais le sentiment d'inégalité avant impôt est terrible. C'est-à-dire que les inégalités en France avant impôt sont terribles. L'INSEE les a analysées. Ça va de 1 à 18. Si on prend les 10% les plus riches par rapport aux 10% les moins riches, on a une différence de 1 à 18. Mais après redistribution, après impôt, on est un des pays les plus égalitaires. L'écart n'est que de 1 à 3. Donc il y a aussi un ressentiment de la part de l'opinion publique, une méconnaissance de la part de l'opinion publique de tout ce que représente la redistribution qu'il reçoit en matière de services publics, en matière vous n'êtes pas de prestations.
Moi, je dois dire que je suis extrêmement surpris par ce chiffre de 1 à 3.
C'est le chiffre de l'INSEE.
Je suis extrêmement surpris, je voudrais savoir comment c'est calculé. Parce que ça voudrait dire la moyenne des 10% les plus faibles, les plus pauvres, c'est 1500 euros par mois.
Bien sûr.
1500 euros par mois sur, pour une famille. C'est ça, c'est le maximum, 1500 euros. Ça voudrait dire que les plus riches ne recevraient que 4500 euros. C'est-à-dire trois fois. Non, mais
on pourrait se réconcilier avec François Ruffin en disant qu'effectivement, il y a un sentiment d'injustice, si ce n'est d'ailleurs une injustice mathématique, fiscale, c'est-à-dire que les riches paieraient en proportion moins que les plus précaires. Mais attendez, mais on peut résoudre cette équation-là plus simplement qu'en augmentant les impôts des riches. Hein. On peut baisser les impôts des plus précaires et les impôts de tout le monde d'ailleurs. En réalité, le problème de l'injustice fiscale, elle est là, c'est que tout le monde paye trop d'impôts.
Non, mais les plus précaires, ils payent l'impôt indirect. Ils ne payent pas l'impôt direct.
Les plus précaires, oui, mais la moyenne.
Ils payent la TVA.
Vous prenez tous les Français, tout le monde paye trop d'impôts dans ce pays.
Mais pour les. Si les plus riches payent moins d'impôts que... Enfin, les 0,01% payent moins d'impôts que les 1% et que les 10% qui les suivent. Pour une raison très simple, c'est qu'une partie de leur argent est dans ces fameux holdings familiales. Ça mérite peut-être qu'on regarde exactement ce qu'il y a dans ces holdings familiales. S'il n'y a que l'outil de travail, ça peut se concevoir. Mais s'il y a autre chose que l'outil de travail... C'est à la direction des finances publiques de faire le gendarme pour vérifier que cette structure de holding familial n'est pas détournée de son
objectif. Je me suis dit, dans notre discussion, il y a quand même un grand absent, si je peux me permettre. Et je parle à l'ancien chevènementiste que vous êtes.
Le chevènementiste ancien, plutôt.
Exactement, le chevènementiste ancien, si vous préférez. C'est la question quand même. J'entends, hein, on cherche à faire des économies, voir qui on va taxer, mais il y a quand même un grand absent, et depuis des années, c'est la question quand même de la croissance, en fait, des recettes par la croissance,
sûr,
de la réindustrialisation. Et je m'adresse au président que vous êtes, hein, de la fabrique de l'industrie. Entre 1995 et 2015, mais vous connaissez ces chiffres mieux que moi, la moitié des usines ferment, on est à 1 million d'emplois. Et ça, c'est un grand absent des discussions.
Alors, vous avez tout à fait raison. Encore une fois, il y a eu quand même à partir de 2015-2016 un changement. Pour la première fois depuis 40 ans, l'industrie n'a plus perdu d'emploi. Pour la première fois depuis 40 ans, on a créé plus d'usines qu'on en a perdu. Et c'est pour ça que je dis que la politique de l'offre n'a pas que des inconvénients, même quelques avantages. Ceci étant dit, la croissance française est faible. Une des raisons de la faiblesse de la croissance française, je m'excuse de faire un peu de technique, c'est que la productivité ne progresse pas. C'est-à-dire la capacité, c'est ce que chaque une heure de travail permet de produire. Eh bien, ça ne progresse pas. Or, la productivité, c'est ça qui crée la croissance.
Donc, travailler plus.
Non, travailler mieux.
Travailler
mieux.
Vous avez raison. Si on ne peut pas travailler mieux, il faut travailler plus.
Dans les deux cas, on ne gagne pas plus. N'incite pas les gens à travailler mieux ou à travailler plus, en réalité. C'est encore une fois le problème de l'impôt.
Ça peut être. C'est pas l'impôt qui empêche le gens de travailler plus, je ne le pense pas.
Il y a des stades où il est plus avantageux de ne pas travailler plus.
Je suis pour travailler plus, pour gagner plus, quand même. Hein.
Mais est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le président, que les riches, notamment, ou les personnes aisées dont vous parlez, se méfient de l'usage que l'État fait de leur argent? Est-ce que, comme aux États-Unis, le débat avait eu lieu avec Warren Buffett et Bill Gates pour dire à l'État, on ne paye pas assez d'impôts? Et donc, ils voulaient payer des impôts, mais les loger, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, dans des fondations, en décidant eux-mêmes des investissements publics qu'ils allaient faire.
Non, mais Jean-Marc,
c'est un rêve.
On est d'accord pour considérer que l'argent public n'est pas toujours bien utilisé.
Oh, non.
Mais.
Un euphémisme.
N'allons pas vers l'idée qu'il y aura un grand gaspillage. Et que ça serait miraculeux de réduire. Parce que qu'est-ce qui pèse?
Les rémunérations.
Les retraites.
Les retraites.
Un quart.
70. C'est les retraites qui pèsent. Et c'est le budget social qui pèse. Et ce budget social, il permet quand même de faire ce que vous avez expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le taux de pauvreté serait de 25% en France s'il n'y avait pas de redistribution, et il est de 15%. C'est-à-dire que c'est un taux de pauvreté qui nous place plutôt pas mal en Europe, même s'il vient de croître un peu. Mais ça, c'est de la redistribution, donc ce n'est pas de l'argent perdu.
Sur les retraites, il y a quand même une bonne partie des retraités qui n'ont pas besoin d'aussi grosses retraites.
Alors,
pas du tout précaires.
Non, je ne parle pas de ça. Mais les retraites, vous allez toucher aux retraites. Le problème, c'est de savoir si on est capable de régler ce problème des retraites.
De la répartition.
En tenant compte du vieillissement des populations. Oui. Et moi, je pense que il faut qu'on sorte de cette affaire des retraites.
Qu'on aille vers une capitalisation.
Je dis d'abord qu'il faudrait au moins résoudre le problème du système de répartition. Avec le conclave, on n'est pas passé loin.
On
est passé de chaque côté. Et je pense en plus que cette réforme avait été mal engagée parce que je pense qu'il fallait pas partir sur l'âge légal. Il fallait partir sur la durée des cotisations. C'est ça ce qu'avait fait Marisol Touraine. Et ça a marché.
Alors, pousser les curseurs, quoi.
Pour en revenir à ce qui peut être annoncé là dans les tout prochains jours, avant la fin de la semaine, taxer les plus riches. C'est intéressant de regarder ce qui se fait autour, quand même. Vous êtes penché là-dessus, Samy Sfaxi.
Je suis tenté de vous rassurer. C'est quoi ce petit sourire, Julie, là?
Mais je souris quand je vous vois, Samy. C'est naturel.
Très bien. C'est vrai. Vous avez ça naturellement.
Bon, et alors, qu'est-ce qui se fait autour? C'est une idée qui fait son chemin de partout.
Je suis là pour vous rassurer ce soir, absolument. Parce que si vous pensiez, que ce débat, qu'on se déchirait, qu'on était les seuls à se déchirer sur cette question, vous vous trompez sur la question de la taxation des plus riches. En réalité, les États, c'est vrai, ont besoin de recettes fiscales pour financer la transition climatique, la transition démographique, et puis aussi la hausse des dépenses militaires qui ne cesse de progresser dans les pays. Alors, vous allez voir. Qui a dit... On va jouer à qui a dit ce soir. Qui a dit le déficit n'est pas soutenable et s'il faut que ça saigne, ça doit venir des riches, de la classe, des milliardaires. Ça ne peut pas venir des classes moyennes. C'est suffisamment dur de s'en sortir aujourd'hui.
C'est
pas Philippe Martinez.
C'est un milliardaire.
Est-ce qu'on a des choix?
C'est un milliardaire. C'est pas un milliardaire, mais c'est Steve Bannon. Voilà, c'est Steve Bannon. Du côté, donc, dans le camp MAGA, dans le camp Donald
Trump. Du côté Trump.
On s'attendait pas forcément à avoir ce type de sortie aux États-Unis. Donc, ça agite également la classe américaine. Chez les Républicains aussi, on se pose cette question. Allez, on va partir au Royaume-Uni. Saviez-vous que jusqu'à maintenant, le régime des non-domiciliés au Royaume-Uni permettait à des étrangers de s'installer en Angleterre et d'être exemptés d'impôts sur l'ensemble de leur fortune qui était conservée hors d'Angleterre? Eh bien, tout ça, c'est terminé. Voilà, parce que le Royaume-Uni aussi a besoin d'entrée fiscale.
Ce qui fait que ces personnes partent à Milan.
Absolument.
Voilà. Nouvelle Eldorado des riches. Ne spoilez pas la chronique de Jean-Marc Sylvestre tout à l'heure.
Ça avait attiré d'ailleurs beaucoup d'oligarques russes, ce qui embêtait les Anglais. Et puis le Brésil, on en a souvent parlé également. Lula, qui lui veut taxer les plus riches pour réduire l'impôt des classes moyennes. Regardez ce qu'il a dit, c'est assez édifiant, c'est assez radical et direct. Taxer les riches n'empêchera pas ceux qui contribuent de manger leur viande, leur salade, leurs crevettes, leur homard, leur filet mignon, mais cela permettra aux pauvres de manger un peu de viande. Et voilà, c'est vrai que c'est un débat qui agite en tout cas tous les continents.
Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on en fait nous tout un pataquès en France alors ?
C'est l'idée de Marine Le Pen. Lula est aligné sur la question de l'injustice fiscale avec Marine Le Pen, qui dit
pas sur la même idéologie politique.
Non, mais pas tout à fait sur le même programme sur le reste, mais sur la justice fiscale, effectivement, Marine Le Pen dit elle aussi, il faut pouvoir taxer les riches à condition que ça permette de réduire les impôts des autres Français.
Alors, il y a une question de Karim. Je suis pour la taxe Zucman parce que je pense qu'il est normal que des milliardaires participent davantage, mais on nous dit que si on l'applique, ils vont tous s'en aller. Franchement, est-ce que c'est vrai?
Je ne pense pas que ce soit le principal problème. Franchement, je ne pense pas que ce soit le problème de cette taxe. Cette taxe qui ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Je crois surtout qu'elle est anticonstitutionnelle. Et que donc, elle a un avenir limité devant elle. Je ne suis pas un spécialiste du droit constitutionnel, mais elle est pour un certain nombre de personnes, elle va apparaître comme confiscatoire. Donc, elle sera rejetée par le Conseil constitutionnel.
Alors, ça pose encore question, c'est pas encore sûr, mais...
L'idée de, qui est avancée par les défenseurs de, les partisans de cette taxe, justement, sur la question de, des entreprises numériques qui n'ont pas...
Des start-up, en général.
Start-up, en gros, on leur redonnerait des actions.
C'est-à-dire qu'ils paieraient en action.
Oui.
Ils paieraient en action.
Ça vous paraît. Oui, c'est une nationalisation.
Ça vous paraît complètement.
C'est ce qu'on appelle une expropriation. Sans,
oui, c'est du,
sans,
oui, c'est du communisme.
Sans, c'est du collectivisme.
Pas du collectivisme. C'est une sorte. Ça sera jugé comme une expropriation sans compensation. Ouais. Oui, et je pense que ça ne sera pas accepté par le Conseil constitutionnel.
Sur le risque d'évasion,
c'est formel là-dessus.
Sur le risque d'évasion des riches, ça a fait beaucoup réagir. Je voulais qu'on écoute à nouveau le député François Ruffin, qui évoque, si les riches venaient à quitter le pays, une privation des droits civiques comme mesure contraignante. On écoute à nouveau François Ruffin sur BFM TV ce matin.
Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait des mesures contraignantes qui soient mises sur ceux qui, finalement, choisissent de ne pas appartenir à la patrie. Ceux qui menacent en permanence de fuir, de partir. Je veux dire, oui, il faut des mesures contraignantes. Pourquoi pas une privation des droits civiques ? On est là dans ne choisissent le choix qu'ils font de ne pas appartenir à la communauté nationale.
Une privation des droits civiques comme punition si les riches décident de quitter le territoire en cas de taxation. Et les droits civiques, donc c'est quoi ? C'est plus le droit de vote, par exemple ? C'est
oui, quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Non, mais là, c'est un peu on est un peu dans le n'importe quoi.
On peut faire un mur et appeler
ça. On est dans la punition. Alors, on peut considérer qu'il y a peut-être des... Ça a été expliqué par M. Gallois. Peut-être qu'il faut voir un certain nombre de dispositifs, les holdings et tout ça. Mais enfin bon, il n'en reste pas moins que ces personnes aient créé beaucoup d'emplois en France. Et quand même que les partisans de ce député se souviennent bien quand même que les électeurs, ils ont besoin d'emploi.
Et c'est parce qu'il y a même...
Punir les patrons, ça nous renvoie, mais alors à des...
Non, mais il faut reconnaître qu'il s'agit de patrons un peu particuliers.
Ça, c'est avocats.
Mais je pense qu'ils doivent... contribuer cela.
Ils doivent contribuer.
Plus. Et je pense qu'ils peuvent contribuer plus qu'ils ne.
Mais c'est l'idée de taxer l'outil de travail.
Mais je pense c'est qu'il faut, il ne faut pas taxer l'outil de travail. Et je pense que l'idée de sanction du type suppression de droits civiques poserait un problème là aussi. Les gens ont droit quand même de circuler. On va pas empêcher les gens de circuler.
Et puis surtout, les Français ont le droit de voter.
Les exilés fiscaux, ça me plaît pas. Je trouve normal de payer des impôts en France. Ouais. Je fais partie des riches et aisés que j'évoquais. Je trouve normal de payer des impôts. Je suis prêt à en payer plus. Mais, il y a des exilés fiscaux. J'aime pas beaucoup ça. J'aime pas, même pas ça du tout. Mais il n'en reste pas moins que je ne vois pas comment on peut les punir.
Ouais.
Pas de sens.
Cyril Chabanier nous a rejoint, président de la CFTC.
Bonsoir.
Bienvenue. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre en cette heure tardive. Une réaction à ça, ça va un petit peu trop loin, c'est la chasse aux riches, là ?
Ça n'a pas beaucoup de sens de priver des droits civiques. Il y a quand même une liberté de choisir et une liberté de circuler. Donc autant il faut évidemment faire participer davantage ceux qu'ils peuvent. Moi, je ne suis pas un grand fan de la taxe Zuckman en soi, parce que j'ai toujours un problème sur le bien professionnel. Je pense qu'il faut faire une grosse différence entre l'argent qui rapporte de l'argent et l'argent qui sert à de l'investissement. Voilà, donc la nuance. Alors, il y a parfois des choses à vérifier, parce que on a vu déjà dans des biens professionnels certains milliardaires mettre des yachts. Certain que ce soit un bien professionnel. Donc, il y a sûrement un peu de police à faire là-dedans, mais c'est très important de faire la différence entre l'argent qui sert à l'investissement et l'argent qui crée de l'argent. Voilà. Et donc, il faut une participation, mais sur cette partie-là, quoi.
Alors, vous faites partie de ceux qui étaient à Matignon.
Tout à fait.
Ce matin. Vous en êtes ressorti pas tout à fait convaincu. C'est un euphémisme. Et donc, vous annoncez la nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre prochain. Il n'y a rien qui vous a été dit qui a pu vous laisser penser que ça avançait un peu dans votre sens. On parle de taxer les riches. Pourtant, ça fait partie de vos demandes, non ?
Oui, on parle de beaucoup de choses, mais on n'a pas d'annonce jusqu'à présent. Alors, dans les choses plutôt positives ce matin, on a un Premier ministre qui souhaite redonner sa place au dialogue social, qui souhaite nous impliquer davantage dans toute une série, et d'ailleurs il doit nous écrire très prochainement toute une série de négociations et de thématiques assez intéressantes, dans lequel d'ailleurs il nous certifie qu'il ne fera pas de lettres d'orientation de cadrage très strictes. Ça change avec le passé, et sur lequel on aurait une certaine souplesse dans la négociation. Ça, c'est le côté positif. Mais c'était pas le but de la réunion de ce matin. Le but de la réunion de ce matin, c'était de savoir, dans toutes les mesures qui nous convenaient pas de la préparation du budget de François Bayrou, les mesures qu'il gardait, les mesures qu'il ne gardait pas.
Alors, et sur ça, visiblement, pas grand-chose. Alors, visiblement, pour l'instant, et c'est ce qu'a réaffirmé Marie-Lise Léon de la CFDT, il enterre une nouvelle réforme de l'assurance chômage, ça c'est un premier point, c'était l'une de vos demandes, et visiblement, il va annoncer donc une nouvelle contribution des plus hauts revenus. Il met des choses sur la table.
Alors, il y a trois points plutôt positif. Un, oui, je pense qu'il n'est pas sur une nouvelle grande réforme de l'assurance chômage. En fait, il voudrait sûrement qu'on parle uniquement d'un problème qui sont les ruptures conventionnelles, mais pas une grande réforme. Deuxième point, alors il a évoqué de manière assez floue en disant les prélèvements obligatoires, je veux pas forcément qu'ils augmentent, mais il faut revoir la distribution dans ces prélèvements obligatoires. Donc on comprenait, c'était un peu sous-entendu qu'il fallait faire participer un peu plus les riches, peut-être un peu moins certaines catégories. Voilà, mais c'était assez flou et pas encore tout à fait déterminé. Et un troisième point qui est plutôt positif, et ça rejoint ce que monsieur Louis Gallois a dit tout à l'heure et je m'en réjouis, qu'au moment où on demande une transparence de partout sur les 211 milliards d'aides publiques, même si on mélange beaucoup de choses qui sont difficiles à mélanger, mais je ne veux pas faire le combat des chiffres.
Les aides aux entreprises.
Les aides aux entreprises, les aides publiques, il fallait de la transparence aussi, donc ça méritait une évaluation. Je me suis d'ailleurs permis de lui dire que si on évaluait, j'espère que c'était pour en tirer des conséquences, sinon on gagnerait du temps et de l'argent à ne rien faire. Et donc, il devrait y avoir cette évaluation pour corriger, voir les aides qui sont efficaces, celles qui ne le sont pas, celles qu'il faut arrêter.
Il y a un rapport sénatorial sur la question.
Alors, il y a le rapport sénatorial, mais il était déjà là au moment de François Bayrou et jamais a été évoqué l'évaluation des aides publiques des entreprises. Serait-ce que l'évaluer pour d'un deuxième temps conditionné, c'est un petit plus. Mais vous voyez que sur toutes les autres mesures qu'il y avait dans le budget, je pense notamment à l'année blanche, je pense donc la non-revalorisation des prestations sociales,
au
doublement de la franchise. Non, il nous a pas parlé non plus par rapport au doublement de la franchise médicale. Enfin, il y a des tas de sujets sur lesquels on n'a pas de réponse.
Oui.
En nous disant, premièrement, je suis pas capable de vous répondre aujourd'hui, mes négociations ne sont pas terminées. Il y a un autre argument, là on l'a pas compris, qui était, il a d'ailleurs dit qu'il était le Premier ministre avec le moins de pouvoir de la Ve République. C'est vrai qu'il y a un Parlement où c'est très compliqué, je peux comprendre ça. Et nous disant, le budget que je vais présenter, que je vais mettre sur la table, comme je veux un grand échange au Parlement, évidemment le projet final va être très différent du projet que je mettrai sur la table, du projet initial. Donc je ne vais pas m'engager sur quelque chose dont je maîtrise pas la finalité. Mais nous, on ne lui demandait pas de s'engager sur le projet final, parce que évidemment qu'il y aura un débat au Parlement.
Il y aura un débat au Parlement.
Et des amendements. Mais on demandait au moins de s'engager sur des mesures, sur le projet initial.
Sur la base.
Qu'est-ce qu'il va mettre sur la table au Parlement?
Sauf que, vous avez raison, alors je vous lis précisément ce qu'a dit, c'est Sophie Binet qui l'a rapporté. Le Premier ministre nous a dit que jamais dans la 5e République, un Premier ministre n'avait été aussi fragile. Nous sommes en position de force. Ce qu'il a voulu vous dire par là aussi, c'est qu'il a besoin de votre sens du compromis aussi. C'est qu'il n'a pas de majorité au Parlement, c'est qu'il ne va pas pouvoir adhérer à toutes vos requêtes, toutes vos demandes.
Oui, mais moi j'ai aucun problème pour faire...
Vous partez ? Mais non, mais vous restez avec nous, Louis Gallois. Qu'est-ce qui se passe? L'émission n'est pas terminée.
Il a tellement été surpris que j'ai dit que j'étais d'accord avec lui sur le sujet que ça l'a perturbé.
Ça l'a mis en état de choc. Sauf si vous devez partir.
Nous nous succédions.
Ah non, vous êtes ensemble. On est tous réunis sur le plateau.
Non, jusqu'à.
Vous êtes devenu jusqu'au bout, Louis Gallois.
Oui, donc je disais qu'évidemment qu'on était ouvert au compromis. Je crois que
parce qu'on n'a pas tellement l'impression, pardon. On a l'impression que vous êtes sur les retraites, par exemple, et que là-dessus, c'est revenir aux 62 ans ou c'est la grève?
Alors d'abord, c'est non aux 64 ans, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La nuance n'est pas neutre. Et deuxièmement, évidemment qu'il y a toujours ce sujet qui est brûlant chez nous et mal digéré des 14 manifestations qu'on a fait il y a maintenant 2 ans. Mais le sujet principal pour lequel on est allé dans la rue le 18 septembre, c'est la conférence de presse de François Bayrou avec les annonces très dures sur le budget qui reposait quasi uniquement sur les salariés, les retraités
et, là, le 2 octobre,
et les fonctionnaires.
Quelles sont les revendications pour le 2 octobre et quels sont, si je puis dire, les buts de guerre concrètement, précisément?
Mais ça reste les mêmes, c'est-à-dire, je vais essayer de répondre un peu aux deux questions en même temps, mais le compromis, nous on est partant, on a toujours dit qu'on était prêt à la CFTC à faire des efforts, qu'il y avait un vrai sujet de déficit et de dette, et que donc, y compris que les salariés, les retraités participent à l'effort, on était prêt à le faire. Le problème, c'est que pour que les salariés et les retraités participent à l'effort, il faut que tout le monde participe à l'effort. Il faut que ce soit juste et équitable. Et c'est ça le véritable problème du budget Bayrou. C'était pas juste. Les entreprises avaient absolument rien à mettre sur la table. L'efficience de l'État était pas revue. Donc c'était ça le problème. Nos exigences, elles restent les mêmes. Moi, l'année blanche, sur certaines revalorisations de prestations qui sont soumises aux revenus, je peux comprendre qu'on les gèle pour les tranches les plus hautes. Est-ce qu'on peut geler les prestations sociales pour des personnes qui sont au SMIC et sur lesquelles il n'y a pas une très grande inflation? Mais enfin, dernier trimestre, on est quand même à 1,7 d'inflation. C'est très compliqué. Sur les retraités...
Pour vous aussi, c'est injuste, Louis Gallois, cette
non, mais j'ai été très choqué du fait qu'on bloque le RSA. L'allocation pour adultes handicapés, pour les APL, gelées. Alors, on plaint les personnes aisées qui vont avoir des impôts, mais là, c'était dramatique. Ce sont des gens qui sont, moi, j'ai des activités associatives, et je les vois, ce sont des gens qui sont à 5 euros près par mois. Et on leur dit, il y aura pas de prise en compte de l'inflation. C'est pour ça que je disais, on peut pas faire un budget qui demande quelque chose au plus fragile. C'est pas possible.
Tout le monde fait un effort, mais on épargne les plus fragiles et on le fait en fonction de ses moyens. Et c'est ça qui est important.
Vous sentez, juste un dernier mot là-dessus, sur cette mobilisation du 2 octobre, vous sentez qu'il y a encore... vous avez de quoi mobiliser à nouveau? On parlait de 500 000 personnes le 18 septembre dernier. 500 000 pour les policiers, 1 million pour la CGT. Il faut s'attendre à quoi le 2 octobre?
On va essayer de faire au moins aussi bien que le 18 septembre. Oui, on est encore en capacité de mobiliser parce que les inquiétudes qu'il y a eu durant l'été et en ce début du mois de septembre ne sont pas levées parce qu'il n'y a pas de réponse sur toutes les questions qu'on vient d'évoquer et tous les exemples que Monsieur Gallois vient de prendre. Donc, tant qu'il n'y a pas de réponse claire, on sera en capacité de mobiliser. Alors, j'ai cru comprendre que le Premier ministre allait donner quelques pistes nouvelles d'ici la fin de la semaine.
Demain?
Demain. D'ailleurs, c'était assez marrant de l'annoncer après la rencontre avec le patronat et pas nous l'avoir dit le matin à nous.
Bon, il garde la surprise.
Un peu surprenant. Donc on verra s'il y a quelques directives, quelques mesures qui permettent
de calmer la colère.
De calmer la colère.